Voilà, je me permets juste d'enlever ça, sinon je ne vous vois pas bien. Voilà, j'ai envie de vous voir. Vous êtes beau, alors j'ai envie de vous voir. Bonjour à tous, je suis ravi d'être devant vous ce matin. Merci à ceux qui ont fait l'effort de venir. Alors ce matin, j'ai choisi comme texte un miracle de Jésus, une guérison, dans Jean chapitre 5 et les versets 1 à 16. Alors je vous propose qu'on commence par lire le texte. Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda « Veux-tu être guéri ?»« Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. » « Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. » À l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Mais cela se passait un jour de sabbat. Les Juifs interpellèrent donc l'homme qui venait d'être guéri. « C'est le sabbat, tu n'as pas le droit de porter cette natte. » « Mais, répliqua-t-il, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. »« Et qui t'a dit cela ?» lui demandèrent-ils. Mais l'homme qui avait été guéri ignorait qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui se pressait en cet endroit. Peu de temps après, Jésus le rencontra dans la cour du temple. « Te voilà guéri, lui dit-il, mais veille à ne plus pécher pour qu'il ne t'arrive rien de pire. » Et l'homme alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Les Juifs se mirent donc à accuser Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Alors, peut-être déjà quelques mots de contexte sur cette histoire. Donc Jean 5, on est encore au début du ministère de Jésus sur terre. On nous dit qu'il est revenu à Jérusalem à l'occasion d'une fête et il passe dans cet endroit près de cette piscine de Bethesda où on nous dit qu'il y avait de nombreuses personnes qui étaient là, des personnes aveugles, des personnes paralysées, des personnes impotentes. Donc on a une image d'un endroit qui, selon moi, n'était pas un endroit très heureux. Je pense que c'était un lieu un peu sombre comme ça, un lieu un petit peu plein de souffrance, plein de gens qui étaient là depuis longtemps. Dans certaines Bibles, il y a un verset en plus, mais qu'on ne retrouve pas dans les manuscrits les plus fiables. Du coup, souvent, il est enlevé, qui explique qu'il y avait un ange qui venait agiter l'eau de cette piscine et que la personne qui a entré la première dans l'eau était guérie. Mais finalement, pour notre histoire, ça apporte pas grand-chose. Simplement de dire que c'était quand même, je pense, un lieu assez triste finalement et rempli de souffrance. Et Jésus arrive, il y a beaucoup de gens malades, mais le texte nous dit qu'il est interpellé par cette personne qui est là depuis 38 ans. 38 ans, c'est plus que la totalité de ma vie, donc qu'est-ce que c'est long, 38 ans, dans cet endroit, en étant paralysé. Et la première chose qui me frappe dans cette histoire, c'est pas le fait qu'il soit malade depuis si longtemps, c'est pas le fait qu'il soit paralysé, mais c'est la solitude que cet homme exprime. Jésus va à sa rencontre, lui demande « Veux-tu être guéri ?» Et ce que répond cet homme, c'est « Mais en fait, il n'y a personne pour me pousser dans la piscine. » Donc vous imaginez, ça fait 38 ans, il est paralysé et il n'y a pas un membre de famille, il n'y a pas un ami qui est avec lui et qui peut simplement l'aider à aller dans cette piscine. Et c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que je crois que aujourd'hui, la solitude, c'est encore quelque chose de terrible. Je crois qu'on le vit tous personnellement, mais on le voit aussi autour de nous. Moi, dans mon travail, il n'y a pas un jour qui se passe sans que je sois confronté à la solitude et ses effets. Il se trouve que je travaille avec les personnes aveugles et malvoyantes. Il y en a beaucoup qui vivent seules. Je connais une dame, elle m'appelle tous les matins. C'est une dame, ça fait 6 ans qu'elle n'est pas sortie de chez elle. Elle est aveugle, elle vit toute seule. Et elle a la visite, c'est son infirmier le matin pour prendre sa tension, et puis la personne qui fait son ménage. Et du coup, tous les matins, je vais au travail, je m'assois derrière mon bureau, le téléphone sonne, c'est Marie-Jo au téléphone, et on parle 15 minutes. Il n'y a pas grand-chose à dire, parce que son quotidien, il est toujours le même. Mais on prend le temps, on lit paroles et textes ensemble au téléphone, et puis je sais que ça fait une grande différence dans sa journée. Et je crois vraiment que, comme Jésus avait cette capacité d'aller vers les gens, de briser comme ça ces solitudes, de rentrer dans la vie des gens simplement par une parole, un contact, je crois que c'est aussi un appel pour nous de faire la même chose. Il faut qu'on veille les uns sur les autres. La solitude, c'est quelque chose de terrible parce que des fois, ça se voit même pas. On s'en rend même pas compte, mais voilà. Je crois qu'on vit à une époque aussi où il a jamais été aussi facile de rentrer en contact avec des gens. Ça peut être un coup de téléphone, un email, un texto, un sourire. Ça peut être plein de choses. Alors, je poursuis dans l'étude du texte. Et maintenant, j'aimerais m'arrêter sur le verset central de ce texte. J'ai noté une phrase, trois ordres et une vie totalement transformée. Alors, Jésus dit à cet homme, lève-toi, prends ta natte et marche. Alors, tout d'abord, lève-toi. C'est vrai que cet homme, il est couché depuis 38 ans. J'essayais de m'imaginer, vous êtes couché par terre, vous avez le même point de vue à ras du sol, dans cet endroit qui est en plus vraiment un endroit pas terrible, et comme ça pendant 38 ans. Et c'est vrai que je pense aussi, cette position couchée, ça a vraiment aussi une symbolique très physique pour cet homme parce qu'il est paralysé. Mais je crois aussi qu'il y a vraiment une symbolique presque spirituelle aussi derrière. Si on réfléchit, quand est-ce que nous on se couche? On se couche quand on veut dormir, on se couche quand on est malade, on se couche quand on n'a pas envie d'être dans l'action, quand on a envie de rien faire. Et puis, coucher, c'est aussi la position de la mort finalement. C'est souvent la dernière position qu'on connaît. Et du coup, Jésus vient et dit à cet homme, lève-toi. Et c'est vraiment au moment où il dit lève-toi que finalement la guérison s'opère. Et finalement, si on regarde l'inverse, le fait d'être debout et de se lever, c'est pareil. Il y a une grande symbolique dans cette attitude d'être debout. Quand je suis debout, ça veut dire que je suis disponible. Si je suis debout, il y a une notion de dignité. Il y a une notion parfois de courage quand on dit qu'on reste debout face à l'adversité. Et vraiment, Jésus ici, il lui dit, mais finalement, je te veux debout, je t'ai créé debout, j'ai créé l'homme debout et je veux que tu reprennes cette dignité que je t'ai donnée lorsque je t'ai créé. La deuxième chose qu'il lui dit, et ça j'aime énormément que ce soit dedans, il lui dit « prends ta natte ». Voilà. Il ne dit pas juste « lève-toi et marche ». Il dit « lève-toi, prends ta natte et marche ». Et vraiment pour moi, je pense que cette natte, c'est vraiment aussi le symbole que c'était son lieu de vie finalement. Cette natte, c'était probablement une de ses seules possessions, et c'était vraiment le symbole de « mais en fait, moi j'habite là ». Voilà, ma natte, elle est là, je suis dans ce lieu depuis tout ce temps, et c'est là que j'habite. Et je me dis, mais Jésus, il aurait pu lui dire, au contraire, il aurait pu lui dire, lève-toi, surtout tu laisses tout, laisse ta natte là, et puis marche. Mais il lui dit, prends ta natte. Et pour moi, c'est un peu le symbole que Jésus, il est en train de transformer sa vie en entier. C'est pas juste, il va le guérir physiquement, et puis le laisser là. Non, vraiment, il lui dit, mais prends ta natte, prends ta seule possession, parce que tu vas plus vivre ici. Tu vas quitter ce lieu de maladie, ce lieu de misère, et ta vie entière va changer. Et je le prends aussi pour moi et pour nous comme un rappel que lorsque Dieu justement nous appelle et nous a appelés, il nous a appelés aussi avec tout ce qui fait notre vie et ce qui fait notre quotidien. Vous êtes sûrement bien meilleur que moi, mais moi j'ai une capacité parfois à compartimentaliser certains aspects de la vie. Il y a des aspects dans lesquels Dieu il a toute sa place, ou ça va très bien. Puis il y a d'autres aspects, d'autres domaines où parfois c'est un peu plus difficile, voire des fois peut-être même des domaines où presque Dieu n'est pas là. Je crois que c'est aussi un bon rappel que Dieu nous appelle et Dieu nous veut dans notre totalité. Il veut notre cœur, mais il veut aussi tout ce qui constitue notre vie et notre quotidien. Troisième ordre, marche. La guérison, je l'ai dit, pour cet homme, elle s'opère dans le fait de se lever. Il était couché, Jésus lui dit « lève-toi », ça veut dire qu'il est guéri. Mais là, Jésus, il va le faire entrer dans une nouvelle dimension. C'est-à-dire, je te guéris, tu es debout, mais maintenant, je te mets en marche, je te mets en mouvement. Et je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, en réfléchissant dans la Bible, à quel point les gens marchent dans la Bible. Si on regarde depuis le début, les patriarches étaient des nomades, donc ils marchaient beaucoup, ils se déplaçaient. L'Exode, petite randonnée, 40 ans dans le désert, beaucoup de marches. Et puis Jésus, qu'est-ce qu'il a marché, hein ? Sans cesse, il a sillonné le pays. Et puis, puis même jusqu'à Paul, qu'est-ce qui a fait plus de kilomètres que Paul ? Il y a peu de gens. Et je me suis dit, mais c'est intéressant parce que ça montre qu'on a vraiment un Dieu de l'action, un Dieu qui nous met en marche. Et c'est la même chose si vous regardez la création finalement. C'est toujours en mouvement. Là, on est sur un gros caillou qui tourne sur lui-même en même temps qu'il tourne autour du soleil. Toute la nature, tout est tout le temps en mouvement. Et je prends aussi vraiment cet appel pour nous, individuellement, et aussi en tant que communauté, à nous mettre en marche et à rester en marche. Au niveau de la communauté, c'est clair que parfois on aime bien aussi en église prendre du temps pour réfléchir, pour discuter, qu'est-ce qu'on aimerait bien faire, etc. Et parfois, on passe beaucoup de temps à discuter, puis c'est à se demander, mais finalement, est-ce qu'on est en marche? Est-ce qu'on se sent en marche? Est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous sentez que notre communauté est en marche? Je crois qu'il est bon de se rappeler aussi que Jésus nous appelle et Dieu nous appelle à être en mouvement. Et je disais, c'est aussi un appel personnel. Alors vous allez dire, du haut de ma petite expérience de vie avec Dieu, mais quand même, ce que je vois, c'est que la marche avec Dieu, c'est une longue marche, c'est plutôt un marathon. Et ce que je vois aussi, c'est que on peut pas marcher à la même vitesse tout le temps, déjà entre nous, et puis dans nos vies personnelles, je crois qu'il y a des fois, on a un peu l'impression que on est en train de courir comme les gens aujourd'hui et on se sent bien. Et puis, enfin c'est mon expérience, j'ai l'impression qu'il y a des jours où j'ai plutôt l'impression de faire un pas après l'autre et avoir du mal à sentir si même je suis en mouvement. Mais Dieu nous redit encore aujourd'hui, nous redit encore ce matin qu'il nous veut en marche et qu'il est là pour nous accompagner. J'aimerais dire quelques mots maintenant sur le verset 10. Cet homme, ça fait aucun doute que ce moment et cette rencontre avec Jésus et cette guérison, c'était le plus beau jour de sa vie. Vous imaginez, ça fait 38 ans qu'il est paralysé. Jésus le guérit, lui dit « lève-toi et marche, sa vie va changer ». Il est debout et là, qu'est-ce qui m'arrive ? Et même pas quelques minutes après ça, on arrive et on lui dit « qu'est-ce que tu fais avec ta natte ? C'est le jour du sabbat, tu n'as pas le droit de porter ta natte ». Il n'a même pas encore compris ce qui lui arrive, que déjà on l'attaque et on lui dit « mais tu respectes pas la loi, tu es en train de faire quelque chose de faux ». Et je me dis « mais qu'est-ce que ça a dû être aussi décourageant pour lui de se dire « première minute debout et déjà j'ai des ennuis avec les religieux ». Et pour moi, c'est aussi un bon rappel pour nous que cette marche avec Dieu, et lorsqu'on fait sa volonté, eh bien, ça nous expose aussi à des oppositions. J'ai lu une citation, mais je l'ai vue plusieurs fois, je ne sais pas exactement de qui elle est, mais qui dit quelque chose comme, en tant que chrétien, lorsqu'on fait face à des souffrances et qu'on a l'impression qu'il y a de l'opposition, la question à se poser, c'est pas forcément qu'est-ce que j'ai fait de mal, mais plutôt qu'est-ce que je suis en train de faire de bien. Vous voyez l'idée? Et pareil, c'est quelque chose qui me parle, parce que de mon expérience personnelle, j'ai aussi eu l'impression que dans des moments importants de la vie de foi où j'avais l'impression de vouloir vraiment m'engager, de faire des pas pour Dieu, Et bien, c'est aussi dans ces moments-là que j'ai ressenti le plus fortement une forme d'opposition. Et ben, je crois que du coup, c'est aussi un rappel d'en être conscient, de se dire, mais en fait, Dieu nous appelle, mais il y a quelqu'un qui n'a pas envie qu'on réponde à cet appel, qui n'a pas envie qu'on soit en marche. Et il faut le savoir, mais en étant conscient que Dieu est là avec nous et que cet adversaire, il a été vaincu. Maintenant, j'en arrive au verset 14, on est presque à la fin du texte. Jésus, il retourne voir cet homme. Il y a eu deux rencontres, en fait. Il y a eu la guérison, mais après, on dit qu'il y a la foule et Jésus disparaît. Mais ensuite, il retourne le voir. Et c'est intéressant parce que pourquoi est-ce qu'il retourne le voir? Il n'était pas obligé, hein. Je veux dire, c'est pas le mal était fait, le bien était fait. Donc, il n'y avait pas de nécessité. Mais je crois que ce que Jésus veut faire là, c'est vraiment retourner le voir et lui dire « Je t'ai fait un cadeau immense, je t'ai fait une grâce immense, mais c'est pas pour rien. Je t'ai pas guéri juste pour te guérir, je t'ai guéri parce que j'ai un plan pour toi, j'ai une volonté pour ta vie et j'ai besoin de te dire ce que maintenant tu pourrais ou devrais faire de ce cadeau que je t'ai fait. » Il lui dit hein, « Maintenant, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et je pense que c'est aussi un bon rappel pour nous que Dieu nous a fait aussi une grâce immense, mais il ne l'a pas fait pour rien ou pour le plaisir de le faire. Il l'a fait parce qu'il a un plan, qu'il a un désir pour la vie de chacun qui est de pouvoir vivre une vie le plus éloignée du péché possible. Et le dernier élément dont je voudrais parler avec vous, c'est si on prend un peu de recul sur cette histoire, on voit que cet homme, il le sait pas, et je pense que de son vivant, il s'en est jamais rendu compte, mais il a joué un rôle, un petit rôle, mais il a joué un rôle dans finalement le plan que Dieu avait pour Jésus sur terre. Parce que Jésus, quand il est retourné voir cet homme, il savait pertinemment qu'en se révélant à lui, cet homme irait voir les chefs religieux, que les chefs religieux, du coup, viendraient voir Jésus, se disputer avec lui sur ces histoires de sabbat. Et Jésus savait que ce thème-là reviendrait et que parmi plusieurs autres thèmes, tout cela conduirait au fait qu'un jour, il serait condamné à mort. Et du coup, c'est intéressant parce que dans cette histoire, on voit que Jésus est pleinement investi dans la vie de cet homme, qu'il a vraiment un plan personnel pour lui, qui lui dit « Maintenant, je t'ai guéri, maintenant va, vis une vie loin du péché. » Mais en même temps, eh bien, cet homme, eh bien, il a joué, sans le savoir, un rôle dans quelque chose de beaucoup plus grand que lui, qui est le plan de Dieu pour l'humanité. Et c'est avec ça que j'aimerais aussi nous laisser ce matin comme perspective et de dire, mais de nous encourager à répondre à cet appel de Dieu aussi pour nous, de nous lever, de nous mettre en marche avec tout ce qui nous constitue, en sachant que Dieu est pleinement investi dans chacune de vos vies, dans chacun de nos quotidiens, mais que lorsque nous faisons sa volonté, lorsque nous rentrons dans ce plan, eh bien, il est bon de savoir que probablement, nous faisons aussi notre part et nous agissons en faveur du plan plus large que Dieu a pour l'humanité. Je vous invite à prier. Seigneur, je te remercie parce que tu as, par cette guérison, Seigneur, tu nous montres et tu nous appelles encore aujourd'hui à nous lever, à prendre tout ce qui constitue notre quotidien et à nous mettre en marche pour toi, Seigneur. On l'a dit, il y a tellement de choses aujourd'hui, il y a des combats, il y a des adversités, il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de distractions dans ce monde. Mais Seigneur, toi, tu es venu et tu viens encore aujourd'hui nous parler à chacun. Tu viens dans nos solitudes, mais aussi dans tous les aspects de notre vie et tu nous appelles à nous lever, tu nous appelles à nous mettre en marche pour toi. Et Seigneur, ma prière ce matin, elle est pour nous tous ici présents et tous les membres aussi de notre communauté, que nous puissions répondre à cet appel, Seigneur, et nous laisser aussi transformer, changer, encourager par toi, et que nous puissions nous mettre en avant et prendre notre place dans ce plan merveilleux que tu as prévu pour tous les humains. Au nom de Jésus. Amen.